Bien bonjour, bienvenue à l'émission Les Voix de Service Magazine. C'est l'édition du vendredi 7 décembre 2018. Alors avec moi en studio, j'ai ma fidèle collaboratrice Francine Forget. Bon matin.
Bon matin, Hélène.
Oh, Hélène, une voix cassée comme je les adore.
Oh oui, c'est ça, ça c'est ma voix du mois de décembre.
Bon, eh bien, elle me plaît beaucoup. On va y faire attention. On va y faire beaucoup attention.
Mais certainement l'entendre moins que d'habitude.
D'accord. Alors, je vais la déguster davantage.
C'est ça.
Alors, à la régie, pardon, j'ai Mathieu Tessier. Bonjour, bon matin.
Bonjour.
Bon, ça y est, un autre. Et je vais essayer de ne pas tomber. Lui, je pense que
c'est une petite
ironie, mon cher. Alors, voilà. C'est Hélène Bédard qui vous parle. Nous allons, ce matin, vous jaser de plusieurs sujets. Moi, je vais vous amener en gériatrie sociale. Je vais aussi vous parler du permis de conduire. Ah, qui s'en dit des choses, le permis de conduire pour les personnes seniors. Et peut-être les effets positifs de la musique sur le corps et l'esprit. Je vous reviens avec cela. Et Francine va vous annoncer son propos dès la fin de la pause. On va l'économiser. Alors voilà, je laisse tout de suite la douce parole, Francine.
Merci, Hélène. Écoutez, moi, je n'annoncerai pas trop parce que je ne sais pas ce que je vais être capable de livrer, comme on dit. Mais dans un premier temps, cette semaine, je me suis collée beaucoup à l'actualité. Alors donc, je vais vous parler de commotion cérébrale, puisqu'on en a beaucoup entendu parler ce qui est arrivé à M. Stevenson, le boxeur.
Oui.
Alors, la réalité virtuelle pour diagnostiquer les commotions cérébrales, c'est un article qui est paru dans Québec Science en octobre 2018. C'est l'auteur Étienne Plamondon-Aimont. Grâce à la réalité virtuelle, sa carte analytique aide les professionnels de la santé à diagnostiquer des commotions cérébrales et les patients à s'en remettre. L'été dernier, les jeunes confiés à la clinique des commotions cérébrales de l'hôpital de Montréal pour enfants ont mis, au moment de leur évaluation, des lunettes de réalité virtuelle. Plutôt que d'estimer uniquement à l'œil nu les réflexes des enfants en leur demandant, par exemple, de suivre des yeux un doigt ou un crayon, les cliniciens ont expérimenté la technologie de l'entreprise en démarrage Saccard Analytics. Leur but, vérifier si cette dernière peut les aider à déceler des déficiences plus subtiles. Si oui, tant mieux. Cela pourrait permettre de mieux aiguiller les interventions, souligne Isabelle Gagnon, qui est physiothérapeute à l'hôpital de Montréal pour enfants. Saccard Analytics s'est donné comme mission de concevoir et de commercialiser une technologie pour faciliter le diagnostic des commotions cérébrales et de maladies neurodégénératives. C'est un peu une histoire de famille, raconte en riant Isabelle Galliana dans les locaux de Saccard Analytics, situé à l'accélérateur Centec à l'École de technologie supérieure de Montréal. Formée en économie, elle s'est laissée convaincre par sa mère, Arietta Galliana, qui est professeure en ingénierie biomédicale à l'Université McGill, de lancer avec elle une entreprise pour mettre au point une solution fondée sur ses travaux de recherche. Depuis les années 1980, Mme Galliana s'intéresse au mouvement des yeux et de la tête, ainsi qu'à leur coordination assurée par le système vestibulaire situé dans l'oreille interne. Il faut savoir que la plupart des problèmes neurologiques, dont ceux provoqués par une commotion cérébrale, altèrent les réflexes oculomoteurs. C'est surtout après un diagnostic que les données enregistrées par Saccard Analytics prennent toute leur importance, selon Isabelle Galliana. On aide à déterminer des traitements adaptés à l'individu afin qu'il retourne au jeu ou au travail le plus rapidement possible. Pour l'instant, les protocoles de retour après les commotions cérébrales demeurent assez uniformes. Si, par exemple, l'analyse dévoile que le regard de la personne dévie lorsqu'un point se retrouve dans son champ visuel droit, les exercices de réadaptation pourront cibler cette faiblesse, ce qui évitera davantage d'avancer à tâtons dans un programme réticent trop large. 5 cliniques de physiothérapie ont déjà recours à l'outil au Québec et en Ontario, et des discussions se poursuivent avec certaines organisations sportives professionnelles. Au-delà de ses premiers clients, Saccard Analytics se nourrit de grandes ambitions, parvenir à diagnostiquer d'autres problèmes de santé, notamment en décelant les signes précoces de maladies neurodégénératives. De quoi provoquer une petite commotion en médecine.
Et oui.
Alors, c'est dans Québec Science, octobre 2018.
Merci. Merci, merci. Merci, Mathieu. Très gentil. C'est parce que vous n'avez pas eu connaissance. Il venait en courant porter des pastilles à ma collègue. Super. Plein de délicatesse, ce jeune homme. Moi, de mon côté, je vais vous parler de gériatrie sociale. C'est un bien nécessaire. On connaît la pédiatrie sociale, dont la figure de proue, c'est évidemment Dr. Gilles Julien. Mais à l'autre bout de la vie, il y a une approche semblable. Ça s'appelle la gériatrie sociale. Ça a été fondé par deux gériatres et ça s'appelle la Fondation Âge. C'était créé en 2013. Et son objectif est le démarrage de 10 centres à travers la province. Les principes fondateurs, c'est proximité de l'offre de services et de soins, mise à contribution de l'ensemble de l'écosystème communautaire, respect des droits, évidemment, des aînés. Convaincu que la gériatrie peut se pratiquer dans la communauté, ce qui favorise une intervention rapide et directement dans le milieu des aînés. Le maintien à domicile, on dit qu'il est sur toutes les lèvres, et bien sûr, mais ça ne tient pas la route s'il n'y a pas d'écosystème autour des aînés pour prévenir la perte d'autonomie et détecter dès qu'elle se manifeste. En agissant tôt, on évite que les aînés s'affaiblissent et on sauve de coûteuses hospitalisations. En effet, les aînés passent habituellement beaucoup de temps à l'hôpital et en sortent souvent amochés et déboussolés. Et de plus, ils se rétablissent plus lentement. La Fondation Âge, l'une des missions de cet organisme, donc, était l'organisation d'activités permettant aux aînés de mettre leur solitude sur pause. J'aime beaucoup ça. De 2014 à janvier 2017, la Fondation Âge avait un local au service de la base ville de Québec et offrait des services à 2500 aînés vulnérables ou en perte d'autonomie. L'écosystème composé de préposés à l'aide domestique à domicile, des livreurs de popotes roulantes, des accompagnants de diverses horizons qui côtoyaient les aînés à domicile au fil des semaines. Et ces accompagnateurs, ces visiteurs, levaient le drapeau rouge dès qu'ils constataient que tel ou tel aîné semblait aller moins bien. La gériatre faisait alors une visite à domicile. L'intervention avait donc lieu en amont. La visite se déroulait dans le logement de l'aîné, en présence du proche aidant. Mais malheureusement, il y a eu une fin d'expérience. On a frappé un mur, dit le gériatre, quand l'ex-ministre Barrette, loin de nous épauler, voyait dans la gériatrie sociale une utilisation inefficace des ressources. Depuis ce temps, ils ont peaufiné leur modèle, ailleurs, dans d'autres communautés, avec des équipes de professionnels de la santé et d'un médecin. Mais c'est donc pour quand cette fondation? Le démarrage des 10 centres de gériatrie sociale coûterait 4 millions par année, une goutte dans l'océan des dépenses de santé. Et de plus, cela n'impliquerait pas une autre forme de système de santé, ni des investissements massifs en infrastructures. 150 participants étaient présents le 25 octobre dernier à Québec, au deuxième forum sur la gériatrie. Les communautés sont prêtes à se mobiliser pour développer cette approche. Le premier geste apposé par le gouvernement est la reconnaissance de la pratique de la gériatrie sociale en communauté, au même titre que le pédiatre social, de sorte que les services médicaux soient couverts par la RAMQ, c'est-à-dire la Régie d'assurance maladie du Québec. En attendant, la Fondation Âge compte sur les donateurs privés pour poursuivre sa mission. C'était un texte de Sophie Gagnon qui parut dans Virage, l'édition de hiver 2019, c'était la gériatrie sociale, pardon, un bien nécessaire.
Y a les mots qui amuse et ceux qui nous abusent. Les mots qui qui blesse comme autant de morceaux. Les mots qu'on pleure crachent en venin dans le chagrin. Ceux qu'on échange en poignée de main. Il y a les mots qui nous lient sous le sceau du secret. Ceux qui déchirent et séparent jamais. Les mots qui nous hantent pour un instant de folie.
Chanson de Francine Raymond datant de 1993, il y a les mots, mais que nous interprétait Marjorie Fizet.
Merci beaucoup, Mathieu. Alors, nous voilà de nouveau avec Francine Forget. Et je vais donc lui laisser la parole tout de suite.
Merci beaucoup. Je vous parle de Jack Ma, qui est en fait le grand Manitou derrière Alibaba. On en parle souvent d'Alibaba. Et ses milliers d'acheteurs. Alors, c'est la compagnie chinoise qui est une société de vente par Internet qui est devenue un empire. En fait, c'est un cocktail d'Amazon, d'eBay et de YouTube. Alors, c'est vraiment énorme. Puis, au sommet de la réussite, cet homme d'affaires de 54 ans a annoncé qu'il se retire pour faire de l'humanitaire. Mmh. Alors, ce portrait a été reproduit dans la presse plus, mais c'est un article qui est extrait de Paris Match, dont l'auteur est Popeline Cholet. Les clients en premier, les employés en deuxième, les actionnaires en troisième. Telle est la maxime du plus célèbre des patrons chinois, Jack Ma.
Tiens donc.
Une devise aussi atypique que ce petit homme mince à la chevelure ébouriffée qui a conservé à 54 ans sa silhouette d'adolescent. C'est lui qui a lancé l'e-commerce en Chine. Il est très présent maintenant dans le monde. Sa société Alibaba affiche 40 milliards de dollars de chiffre d'affaires et compte 85 000 employés.
Ouf.
Faut le faire, hein, dans un régime communiste.
Faut le faire. Ça.
Mais voilà qu'au sommet de la gloire, il annonce sa retraite pour passer à autre chose. Surprise générale après 20 ans d'ascension. En introduisant l'achat en ligne et en ouvrant la voie au secteur privé dans un pays où la censure sévit toujours, M. Ma a révolutionné l'économie chinoise. Bientôt la planète. Michael Evans, ancien directeur général du groupe, n'hésite pas. Alibaba est né en Chine, mais il a été créé pour le monde. Plus de 400 millions de personnes par an achètent sur Alibaba à des prix défiant toute concurrence. Et le groupe ne se contente pas de vendre des biens de consommation. Il a étendu ses activités aux services, aux assurances, aux crédits, aux transports, à l'investissement, à la logistique et plus récemment aux médias. Rien ne laissait prévoir un tel destin. En 1978, l'année est cruciale pour M. Ma. Le gouvernement lance la politique de la porte ouverte, ce qui permet à Jack de rencontrer les premiers touristes anglo-saxons. Il y a 14 ans et une volonté de faire. Chaque matin, il se précipite pour servir gratuitement de guide en échange de leçons d'anglais. Il gagne une pratique de la langue et le prénom de Jack, attribué par une touriste américaine. Il fait alors la connaissance d'une famille australienne, les Morley, sympathise avec les trois enfants et Ken, le père, qui décidément a un peu de sous, va lui donner sa chance. Il le fait venir en vacances en Australie et lui verse une aide financière pendant ses études, 20 000 $ pour acquérir son premier appartement. C'est en fait un cadeau de mariage puisque sur place, Jack a rencontré une Chinoise et il l'a mariée.
Bien d'or.
C'est ça. En 1999, après plusieurs insuccès, hein, c'est pas arrivé comme ça, sa grande fortune.
Sûrement pas.
Non, à son troisième essai, il réalise un coup de maître. Alibaba prend vie avec une équipe de 18 personnes très motivées. Jack déclarera alors, « Alibaba aurait bien pu être l'entreprise aux mille et une erreurs, mais nous avons survécu pour trois raisons. On n'avait pas d'argent, on n'avait pas de technologie, on n'avait pas de plan. » Il y avait l'enthousiasme. Quand le 13 mai 2000...
Et le rêve.
Oui, c'est ça. Quand le 13 mars 2000, se produit l'éclatement de la bulle Internet, alors qu'une multitude de sociétés doivent déposer le bilan, les fondations vacillent. Mais Alibaba reste debout. En 2002, au moment où eBay tente difficilement de s'installer en Chine, Alibaba contre-attaque en lançant l'opération Chasse au trésor. Jusqu'ici, Jack s'est spécialisé dans l'e-commerce professionnel. Il crée une société, Taobao, ouvrant à des millions de Chinois les portes de la caverne d'Alibaba et celle de la société de consommation. Alibaba a gagné la bataille contre eBay, qui doit se retirer définitivement de Chine en 2005. Ce qui fait dire à Jack, eBay est peut-être un requin dans l'océan. Mais dans le fleuve Yangtze, je suis un crocodile. Si nous nous battons dans l'océan, je perds. Mais si nous nous affrontons dans le fleuve, je gagne. Alors, c'est une partie, finalement, du portrait qui a été publié par Popeline Chollet dans Paris Match. Ça a été rapporté dans la presse du 2 décembre 2018 sur ce personnage qu'on connaît peu, mais qui a quand même créé une société aussi grande et aussi importante que Google, finalement.
On connaît les sociétés, on connaît la société, mais on connaît rarement la personne qui a donné naissance. Et c'est ça qui m'interpelle beaucoup. Je trouve ça fantastique.
Et comme ça se passe dans des conditions qu'on ne connaît peu, en fin de compte, on est toujours surpris de voir le cheminement suivi par ces personnes.
Ouais.
C'est ça.
Je trouve ça
c'est
très ça. Charmant. Merci beaucoup, Francine. Vous avez toujours des belles découvertes pour nous. Merci
et
beaucoup.
Et c'est encore plus beau aujourd'hui avec ma voix, n'est-ce pas?
Ah, c'est chouette.
C'est ça, c'est un plaisir, c'est un cadeau ce matin.
Moi, j'appelle ça sexy.
Mais profitez-en parce que le cadeau, j'espère, ne durera pas longtemps.
D'accord. Je vous laisse vous reposer. Merci.
Merci.
cet aspect tout toxique qui m'excite. Je tomberai bien dans le feu, je me moque du danger, mettrai même mon sexe à brûler, je prends le risque de toi. Je dirai peu importe les chutes, plus encore la chaleur de ton mucus qui me fait tomber au plus bas où l'on s'envole parfois de. Je suis prêt à perdre pied, je prends le risque de toi. Et quand, et quand, dis-moi seulement quand ta deux nous ferons qu'un. Et quand, et quand, dis-moi seulement quand ta deux nous ferons qu'un. C'est dégueu, je prends le risque de toi. Je préfère même les froids face à l'ennui. Car moi quand j'ai trop chaud, je salis. Alors dis-moi que t'es fou, que t'aimes glacer mon sang-froid, que t'aimes souiller mon joli, je prends le risque de tout. Et quand, et quand, dis-moi seulement quand t'as deux nous ferons qu'un. Et quand, et quand, au-delà de tout et le reste on s'en lasse. Je me fous de tous les coups qu'on ramasse et qui nous glacent. Après tout y'a rien à craindre, on restera les seuls en place. Regardez comme ils font peur, leur cœur malade devant la glace. Car je me jette sans grande frayeur dans tes bras que je ne crains pas. J'ai déjà pas mal joué ailleurs, à jouer à pire mais je m'en bats. On s'en donnera à cœur joie, au pire on sera mort de sueur. On sera le plus beau des dégâts avec nos restes de colle au cœur.
La chanson Risque de Eddie Preto. Voyons, Eddie de Preto, pardon.
Merci Mathieu. Bon, merci beaucoup pour la belle musique. Moi, de mon côté, je vais vous jaser un peu de. C'est encore d'un texte de Sophie Gagnon dans la revue Virage. Écoutez, ça tombe à point donné. Je vais vous parler de bonne conduite et de permis de conduire. On en parle beaucoup. Il y a beaucoup de choses qui se disent. Je vais essayer là, de faire le tour là, de ce qu'on en pense. Ici, j'ai un texte, c'est ça, qui nous fait réfléchir. Vérifiez-vous toujours votre angle mort avant de changer de voie? Savez-vous comment procéder à un carrefour giratoire? Connaissez-vous le sens des 400 panneaux de signalisation? Et oui, il y en a 400. Si vous avez répondu non à l'une de ces questions, vous seriez peut-être mûr pour un petit rafraîchissement de vos habitudes de conduite. Et il n'y a pas de honte à cela. Yves Brouillette, conducteur depuis 50 ans, ben, s'est prêté au jeu. Pendant 90 minutes, ce monsieur, par le biais d'un questionnaire écrit et d'une sortie sur la route, s'est donc prêté à cet exercice à l'école technique, un partenaire du réseau de FADOC. Lors du test écrit, j'ai pris conscience de mes lacunes au sujet des panneaux de signalisation. Il y en a quand même 400 quand même. J'avais acquis aussi quelques mauvaises habitudes, par exemple, de ne pas vérifier systématiquement mes angles morts. Ne pas tenir compte des angles morts est une très mauvaise habitude, mais très fréquente chez les conducteurs âgés. Plusieurs ne savent pas agir. Comment agir au moment de céder de passage. Les aînés ont aussi une tendance à conduire un petit peu plus lentement et à trop hésiter avant d'effectuer les manœuvres, tels les changements de voie, comme je vous l'expliquais, les carrefours giratoires, les corridors de sécurité, les virages à droite sur feu rouge. Et en vieillissant, on assiste quelquefois à un déclin de certaines capacités Ça, il faut se l'admettre. C'est un geste responsable envers soi et envers les autres usagers de la route de mettre ces niveaux de compétences. Vous savez, les virages à gauche non protégés sur feu vert sont la source de la majorité des accidents impliquant les conducteurs âgés. Les conducteurs âgés devraient se douter que leur façon de conduire pose un petit problème quand ils se font klaxonner, quand ils ont des petits accrochages, quand ils ont besoin d'un passager pour les aider à conduire, quand leurs proches leur font des remarques ou même que leurs proches refusent de monter en voiture avec eux, ceci peut arriver, ou quand on n'éprouve aucun plaisir à conduire, ça, c'est des signes qui ne mentent pas. On vous conseille donc de connaître vos limites, de les respecter. La Fondation CAA propose des conférences gratuites qui s'appellent « La bonne conduite n'a pas d'âge » ainsi que la journée de sécurité routière. Auto-ajuste, il y a une clinique d'ajustement des miroirs aussi. La SAAQ offre pour sa part des conférences gratuites au volant de ma santé. Sachez ceci. Évitez les heures de pointe. Évitez la conduite de nuit. Évitez la conduite par mauvais temps et évitez les longs trajets sans pause. Évitez de conduire lorsque vous ne sentez pas bien et que vous prenez des médicaments. Tout ceci, ça multiplie les bons conseils au sujet des commentaires et ce qui peut arriver à nos conducteurs âgés. Je vais vous revenir après la pause avec les questions les plus fréquentes sur les permis de conduire. Ne quittez pas, c'est très important, j'ai des choses importantes à vous dire. Nous revenons immédiatement après. Eh bien, merci d'avoir, d'être demeuré à l'écoute. Voilà, je voulais, Hélène Bédard au micro, je voudrais terminer au sujet des permis de conduire. Il y a des choses tellement importantes que j'ai découvert dans cet article-là. Je voudrais vous rajouter certaines particularités, comme par exemple, est-ce que vous savez qu'à la Fondation CAA, il y a une journée de sécurité routière avec un simulateur de conduite? C'est pas rien, ça. Alors, on peut pratiquer ses réflexes et ses connaissances avec ça. Et ceci, c'est gratuit. C'est des cliniques gratuites à CA Québec.
Est-ce que je peux faire un commentaire éditorial?
Oui.
Je trouve qu'il y en a beaucoup qui devraient y aller. Ça devrait être obligatoire.
Oui, on n'en est pas... Oui, je suis porté à... Moi, je travaille à plein temps, je travaille dans le transport, alors je pourrais m'accorder avec vous à 100%, là, c'est sûr.
Ouais.
Cependant, ça va prendre, il n'y a pas encore de loi qui régisse
ça. C'est ça,
cela.
Exactement.
Par contre, je veux juste vous aviser que c'est pas juste les jeunes qui sont les seuls à texter au volant. Si vous pensez là, que c'est juste les jeunes, c'est pas ça du tout. Et il y a une autre chose aussi qu'on a remarqué parmi les statistiques. La majorité des conducteurs dépassent la ligne d'arrêt au feu de circulation. Je ne sais pas si vous en êtes conscient, mais ça arrive très, très souvent. Les conducteurs tournent à droite sur le feu rouge. Savez-vous qu'il faut vous arrêter avant de tourner et non pas tourner juste une roue? Les conducteurs qui changent de voie en présence d'une ligne blanche continue, ça aussi, ça fait partie des statistiques nombreuses. Si vous vous reconnaissez dans un des comportements que j'ai nommés, il n'en tient qu'à vous de conduire mieux en apprenant à conduire mieux. Ça, c'est les questions qui vous apparaissent personnel et vous devriez vous fier à ce que vous ressentez. Par contre, j'ai des questions fréquentes sur le permis de conduire. Quel montant les médecins peuvent-ils facturer pour un rapport, par exemple un rapport médical obligatoire que la SAAQ vous demande? Alors, il s'agit de frais accessoires. Il s'agit ici, ce ne sont pas des frais légaux. Le médecin peut exiger entre 50 et 125 $ pour remplir le fameux rapport de la SAAQ. Ça, c'est comme cela, c'est pas illégal. Est-il possible d'obtenir un nouveau permis quand vous avez perdu le vôtre?
Il faut savoir que moins de 1% des conducteurs âgés perdent le permis à la suite du test de la route requis par la SAC. Toutefois, 50% des cas, des conditions sont alors ajoutées au permis. Par exemple, conduire deux jours seulement, porter des vins correcteurs, interdiction d'aller sur l'autoroute, et oui, ça existe. Si un problème de santé, évidemment, est à l'origine de votre suspension, vous pouvez aussi faire une demande de révision par écrit si votre médecin vous a soigné et que vous êtes bien depuis. Chaque année, 10% des conducteurs âgés abandonnent d'eux-mêmes le permis de conduire. Dans un tel cas, évidemment, c'est les proches qui doivent aborder la question avec la personne et non pas le faire, c'est comme ça que je disais tantôt, il y en a peut-être qui ont besoin d'avoir des cours de rafraîchissement et des mises à niveau. Cependant, ce n'est pas encore des obligations. Il reviendra alors au médecin de fournir à la SAAC les renseignements sur l'état de santé de son patient. Alors, tout ceci pour vous dire que faites attention, c'est le temps des réjouissances, c'est le temps des fêtes. J'espère que ce sera vraiment des réjouissances. Et faites attention à votre conduite. Si vous avez un doute, il y a le réseau FADOR qui peut vous aider beaucoup à vous orienter, à vous donner des références. Puis la CAA Québec aussi, qui est un grand aidant à ce niveau. Et voilà, alors nous continuons sur la route avec Francine.
Bien, je vous dirais que c'est pas sur la route, on est plutôt dans les airs.
Oh, la route des airs.
C'est ça, mais on voyage quand même. Oui. Tantôt, nous étions en Chine. Hein? Alors là, je vous amène à Cuba.
Tiens donc.
Il fait froid aujourd'hui. Alors, un petit coup de Cuba va
ça nous
réchauffe. Faire du bien, c'est ça. Alors, il y a eu, c'est vraiment le coup d'envoi de l'Internet mobile à Cuba. Il y a une contrepartie, c'est que les prix sont assez élevés. Alors, cet article de France Presse de Carlos Batista a été rapporté dans Le Devoir hier.
Tiens donc.
Oui, alors Cuba est devenu jeudi l'un des derniers pays au monde à activer l'Internet sur les téléphones mobiles. Une mesure qui était très attendue par les habitants, vous vous en doutez bien.
Très espérée, très attendue,
oui.
Très demandée. Oui.
Malheureusement, beaucoup d'entre eux n'auront sans doute pas les moyens de payer ce service, en tout cas à ce moment-ci.
C'est prohibitif.
Le service a commencé à fonctionner à 8 heures pour les clients de l'entreprise publique de télécommunications Etexa, ayant un numéro commençant par le 52 et le 53, donc c'est très ordonné à la manière cubaine.
Oui, oui.
Les autres devant être progressivement connectés d'ici 3 jours. Depuis hashtag La Havane, déjà connecté à la hashtag 3G, s'est réjouit sur Twitter un internaute cubain, Eduardo Sanchez, en publiant une photo de voiture circulant dans la capitale. Et Texas semble m'avoir oublié, se plaignait un autre, Camilo Condis. Dans une rue de La Havane, Idalmis Mendoza, qui est une employée d'un bureau de change, confiait à l'AFP sa frustration. Les prix sont un peu élevés, mais bon, peut-être qu'avec le temps, s'il y a beaucoup de connexions, ils pourraient baisser. On leur souhaite en tout cas. Internet à Cuba, c'est pour les gens qui ont de l'argent, car ceux qui n'en ont pas ne peuvent pas beaucoup se connecter, a renchéri Hector David, 28 ans. Content toutefois de la connexion rapide. Très rapide. Presque trop rapide, je dirais, disait ce monsieur. Mais étonnamment, 5,3 millions de lignes de téléphone mobile sont déjà activées sur l'île, sur une population de un peu plus de 11 millions d'habitants. Alors quand même, c'est assez populaire, la téléphonie mobile. Nous continuons d'avancer dans l'informatisation de la société. C'est félicité sur Twitter le président Miguel Díaz-Canel, qui avait profité de son déplacement en septembre à New York à l'occasion de l'Assemblée générale de l'ONU pour rencontrer les dirigeants de plusieurs géants de l'Internet comme Google, Airbnb et Twitter. Le président, qui a succédé en avril à Raúl Castro, était devenu début octobre le premier chef d'État cubain à ouvrir son compte Twitter. Et depuis, une dizaine de ministres de son gouvernement l'ont imité. Alors décidément, les Américains les inspirent malgré tout, malgré le fait qu'ils soient encore soumis à un embargo économique des États-Unis depuis 1962. Ils ont quand même signé, à la fin de 2016, un accord avec Google pour une connexion plus rapide au contenu en ligne du géant américain. L'accès à l'Internet reste pourtant très limité, lent et d'un coût élevé à domicile. La plupart des habitants n'ont donc pas d'autre choix que de se connecter aux quelques 1200 points Wi-Fi publics au prix d'un dollar par heure. Il existe aussi 670 cafés Internet, selon les chiffres officiels. Il doit y avoir du monde ces jours-ci dans ces cafés, n'est-ce pas? Oui, 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 oui. Et la demande est forte dans le pays. Plus de 2 millions de Cubains vivent à l'étranger et leurs familles veulent pouvoir rester facilement en contact avec eux. Souvent, ce sont d'ailleurs ces immigrés, donc ces Cubains, qui vivent à l'extérieur, qui financent les coûts de connexion de leurs proches restés sur l'île, afin de pouvoir leur envoyer des courriels ou parler avec eux par vidéo, tout simplement pour maintenir le contact. Alors Carlos Batista de l'agence France Presse, un texte rapporté dans Le Devoir du 6 décembre 2018.
Je vous en reparle de cela parce que j'ai des gens que j'aime beaucoup, qui sont très chers à mon cœur, qui s'en vont à Cuba justement à la fin du mois.
Bon.
Je vous en reparle si la communication a pu se faire.
Ben, essayez. Il y avait quand même un avantage quand on allait en vacances, c'est que souvent, il n'y avait pas de contact possible avec l'extérieur.
Donc,
alors, donc, c'est cela. Voilà. C'était des vraies vacances.
On se reparle de tout cela.
Corazón, eres lo mejor que ha pasado en todita mi vida, la más cotizada y amada, feliz distracción, el viento que azota la vela. Preciso tenerte tan cerca que si no te busco, vas donde yo estoy. Quisiera no perderte nunca, musilla perversa. Y aunque muy distantes estemos, juremos amor. Tenerte tan cerca que si no te busco, vas donde yo estoy. Quisiera no perderte nunca, musilla perversa. Y aunque muy distantes estemos, juremos amor. Alejes corazón, no me dejes,
C'est la chanson Corazon, le cœur.
Le cœur.
Cœur, voilà. Okay,
merci, merci. Alors, nous sommes revenus en onde subitement parce que je voulais savoir ce que voulait dire ce mot. Et notre linguiste, Mathieu, ben, il nous l'a donné. Merci beaucoup, Mathieu. Alors voilà, moi, parlant de cette belle musique, ben, je vais vous parler des effets positifs, justement, de la musique sur le corps et sur l'esprit. Alors, c'est un texte que j'ai pris dans l'édition du soir Ouest-France. C'est une édition à laquelle je me suis abonné et je la trouve très curieuse, là, très, très intéressante par ses multiples intérêts. On sait que la musique fait partie de notre quotidien à la maison, à l'extérieur dans les écouteurs ou bien dans des moments festifs, en soirée, pour danser. Mais il y a des études qui ont été consacrées là-dessus. En voici quelques-unes. Il semblerait que la musique réactive notre mémoire. À cela, je vous dirais, qui n'a jamais eu des souvenirs qui se bousculent, dans notre tête à l'écoute d'une vieille chanson? On en a tous. La musique agit comme un super stimulus. Les scientifiques affirment même que pour faire ressurgir des souvenirs personnels, la musique est plus puissante que les photos. Plus largement, il semblerait que suivre des cours de musique soit bénéfique pour notre mémoire. Et je m'accorde avec ça. Elle améliore aussi nos exploits sportifs. La musique nous aide à améliorer nos performances. Les scientifiques ont fait pédaler des personnes âgées de 9 à 80 ans sur des vélos d'appartement pendant 2 minutes. Le premier groupe roulait en silence, le second sur de la musique douce et le dernier sur de la techno. Ben, ils ont parcouru comme ça 1,62 km pour celui de la techno, de plus que les autres. Ils prouvent donc que la tendance à pédaler plus vite quand la musique est plus rapide. C'est pas intéressant, ça. Elle fait du bien quand on est malade. La musique est reconnue pour ses vertus thérapeutiques. La musicothérapie est d'ailleurs de plus en plus utilisée dans le milieu médical. Puis les exemples ne manquent pas. Ça réduirait l'anxiété des patients atteints de cancer. Et chez les seniors, elle permettrait de lutter contre le déclin du cerveau. Eh bien, voilà. Écoutez, il y a ici quelque chose qui a été fait chez les malades atteints de Parkinson. Et même chose pour ceux qui sont touchés par l'Alzheimer. Les chansons familières peuvent déclencher l'activité des régions frontales du cerveau. Eh bien là, j'en apprendrai toujours. La musicothérapie a donc de très, très beaux jours devant elle. On mentionne aussi que la musique influence nos choix de repas. En fonction du volume sonore de la musique d'ambiance, nous ne mangeons pas la même chose au restaurant. Ben tiens donc. Lorsque la musique est forte, le nombre de clients qui commandent des plats plus gras est de 10 %, imaginez. Ça nous fait sourire, mais c'est des études, là. Et donc, on commanderait des plats moins gras quand le volume de la musique est plus modéré. Pour les scientifiques, plus un restaurant est bruyant, plus le stress est présent. Les clients vont donc manger des aliments qui les rassurent et qui sont le plus souvent gras, salés, sucrés. Mais c'est pas bête comme raisonnement. Quand il y a peu de monde et de la musique douce, les choix alimentaires se tourneront vers des aliments plus sains. Elle nous rend aussi plus créatifs. Écouter de la musique pourrait booster notre créativité. Cela ne fonctionne que si la musique, évidemment, n'est pas trop forte. Au contraire, un volume trop élevé peut bloquer la pensée créative. Et, pardon, c'est parce que j'avais perdu ma page. La musique nous déstresse. Boule au ventre, appréhension pour se détendre, rien de mieux que d'écouter un peu de musique. Pour que cela soit efficace, il faut écouter une musique que l'on aime. Et ceci fait baisser de 65 % le stress. Eh bien là, il faut y voir. Alors écoutez, je vais vous revenir avec d'autres statistiques sur les effets positifs de la musique sur le corps et l'esprit. C'était donc un texte paru dans Édition Soir de Ouest-France. Eh bien, merci pour... merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça, c'est guitare électrique, hein, monsieur? Alors, voilà. Et moi, ouais, je vous amène sur un texte qui m'a beaucoup réjoui hier. C'est un texte qui s'intitule ainsi. « Qu'est-ce qui vous donne de l'espoir pour l'avenir? » Une belle question. 105 experts du monde entier se sont penchés sur les espoirs pour le futur. Comme la jeunesse, la technologie, la bonté... Et on réussit à ramasser de l'optimisme en barre. Voici un beau rayon de soleil en ce mois de décembre. je vous en parle un peu. La créativité radicale par rapport à la jeunesse. La prochaine génération de penseurs est en train de dépasser les frontières disciplinaires que nous nous étions fixées. L'engagement politique des jeunes, le leadership des jeunes femmes dans le mouvement pour la justice reproductive, le potentiel extraordinaire des jeunes générations a relevé d'énormes défis avec des idées nouvelles, non intimidées par nos échecs passés et surtout très à l'aise avec la complexité. Ils ont aussi abordé l'équité et la justice sociale. Parlons donc des femmes en colère qui se battent pour le changement, l'essor des mouvements de science citoyenne dans le monde, un monde de plus en plus connecté pour permettre des innovations sociales, l'ascension et la montée en puissance du féminin, en particulier les valeurs et les priorités qui y sont associées, telles que le souci de prendre soin les uns des autres, prendre soin de la planète, l'acceptation croissante par les hommes de leurs propres aspects féminins, et que dire maintenant de l'ingéniosité humaine. Espérons que nous pourrons continuer à progresser vers un monde plus juste et plus égalitaire. L'humanité a créé la majeure partie des problèmes de notre société et par conséquent, l'humanité a le pouvoir d'apporter ses solutions. Nous avons la recette du succès en tant qu'espèce. Nous sommes incroyablement résilients et créatifs face à l'adversité et nous avons une capacité unique d'amélioration personnelle au cours d'une seule vie. Nous sommes étonnamment chanceux d'être en vie en ce moment parce qu'aujourd'hui est le meilleur moment pour être en vie dans l'histoire humaine. Hier, c'était le meilleur moment avant ça et j'ai hâte de voir ce que demain m'apportera. Malgré tout, la survie est notre instinct le plus profond, suivi de l'amour. La cupidité et la haine sont des déviations et exigent beaucoup trop d'efforts pour être durables. Nous trouverons notre chemin pour sortir de cette sombre vallée. Nous l'avons toujours fait, nous l'avons toujours réalisé. Parfois, nous apercevons le meilleur de l'humanité quand une tragédie frappe. Je pense que nous apprenons enfin à parler de nos sentiments. L'égalité et les droits sont rarement distribués, alors l'espoir seul ne suffira pas. L'espoir est un mot dangereux. Quand nous avons l'impression d'avoir perdu le contrôle et d'être impuissants à faire quelque chose, j'encourage les gens à ne pas espérer, mais à faire. Faire quelque chose, nettoyer une plage, privilégier les brosses à dents en bambou plutôt qu'en plastique, remplacer votre pelouse par des arbres indigènes. Faites tout ce que vous pouvez, c'est positif et dans les limites de vos capacités. Parfois c'est dur, parfois c'est facile. Quoi qu'il en soit, nous pouvons tous faire mieux et notre avenir en dépend. Jennifer Lavers, chercheuse scientifique à l'Université de Tasmanie.
Moi, mon cœur bat pour ton cœur. Si courent nos jours de bonheur, le monde est triste quand t'es plus dans le décor. Dis-moi, t'es où, il fait si froid dehors. Moi, mon cœur bat pour le jour. Tu reviendras, mon amour. Quand t'es pas là, peu importe le mois. Sur mon existence, y'a trop d'indifférence. Moi, mon cœur bat, ça fait mal. Deux fois plus vite que normal. Quand je suis avec toi. Quand je suis avec toi. Moi, mon cœur bat pour nous deux. Royaume des gens heureux. Si la vie est souffrance, je la préfère en danse. Bouge avec moi, on fera quelques pas. Moi, mon cœur bat quand je te vois. Quand tu m'effleures de tes doigts. La vie, la mort, peu importe mon sort. Laisse-moi encore une nuit avec toi. Moi, mon cœur bat, ça fait mal. Deux fois plus vite que normal. Quand je suis avec toi. Quand je suis avec toi. Quand je suis avec toi. m'écoutera plus quand tu auras disparu. Allez, réponds-moi, dis-moi que t'es encore là. Le reste, je m'en fous, je ne suis qu'un voyou sans toi. Moi, mon cœur bat, ça fait mal, deux fois plus vite que normal. Moi, mon cœur bat, ça fait mal, deux fois plus vite que normal. Quand je suis avec toi, quand je suis avec toi,
Sébastien Lacombe, moi, mon cœur bat.
Oui, merci. C'est très belle mélodie, oui. Alors voilà, je laisse la parole tout de suite à Francine.
Merci, Hélène. Alors, tantôt, vous parliez de musique, des bienfaits de la musique. Mm-hmm. Dans la presse plus du 2 décembre, Mathieu Perrault, dans la section À petite dose, nous rapporte une nouvelle scientifique sur la révolution musicale chez les baleines.
Ah ben tiens donc.
Ben oui.
Ah ben tiens donc chez les baleines.
Oui, chez les baleines. Alors tous les 3 ou 4 ans, les baleines à bosse connaissent une révolution musicale, ont découvert des chercheurs australiens et écossais. Ils ont analysé 412 chants de 95 baleines. Alors ils ont enregistré ça sur 13 ans à l'est de l'Australie. Et ça a démontré que les chants deviennent de plus en plus complexes avant de brutalement se simplifier tous les 3 ou 4 ans. Donc, il y a un cycle musical chez les baleines. Alors, c'est moi qui ai dit ça, là. Je ne sais pas si c'est le terme approprié.
On devrait créer les partitions?
Ben, peut-être. Pour des chorales, ce n'est pas des chorales de Noël. Dans la revue Proceedings of the Royal Society, les biologistes expliquent que les baleines compliquent les chants pour augmenter leurs chances de reproduction.
Ben,
mais à un certain point, ils deviennent trop compliqués. Et à ce moment-là, un nouveau paradigme musical est inventé, nécessairement plus simple parce que les baleines à bosse ont une capacité limitée d'apprendre de nouveaux chants. Une autre petite nouvelle curieuse pour terminer. Un éléphant, ça compte. Alors, si j'avais eu de la voix, je vous aurais chanté « Un éléphant, ça compte énormément ». Alors, semble-t-il, c'est des animaux qui ont des capacités mathématiques semblables à celles de l'homme. Ont découvert les biologistes japonais en observant des éléphants du zoo d'Ueno à Tokyo sur leur capacité à déterminer quel groupe contient le plus d'individus. Étonnant, n'est-ce pas?
Étonnant, fascinant.
Oui, c'est ça, c'est ça. Et qu'on en apprend des choses en préparant cette émission, hein?
Oui, merci. Et surtout vous, vous êtes une belle curieuse, une bonne curieuse.
Ben, c'est partagé, c'est partagé.
Nous devons vous laisser, on compte sur vous pour être avec nous la semaine prochaine. Alors voilà, c'est toute l'équipe qui vous dit au revoir et à vendredi prochain.
À vendredi prochain, Hélène.